Je voulais particulièrement remercier ce matin les enfants dans la louange. Les enfants dans la louange parce que le Seigneur, il nous a dit « Ayez un cœur comme un petit enfant. » Et quand les enfants étaient dans la louange, dans l'adoration, par les gestes, par les drapeaux, c'est comme si le Seigneur, ce matin, il faisait une action un peu prophétique au milieu de nous. C'est comme si, avec ces chants de louange que nous avons fait monter ce matin, c'est comme si le Seigneur, du haut de son trône, il déplaçait des armées d'anges pour combattre pour nous ce matin. Et je voudrais remercier pour ce temps de louange, ce temps de grâce, ce temps où on se met devant le Seigneur et où notre cœur se dispose devant lui à recevoir de sa personne un peu plus de sa personne ce matin. Je voudrais aussi remercier, alors je commence par la fin, je voudrais remercier vous tous ce matin pour le temps que nous allons vivre ensemble. Je voudrais remercier Jonathan et Céline pour votre accueil ce matin. Merci Olivier et Elodie, ainsi que Mathieu et Emmanuel. Toute la semaine, bien aimé, toute la semaine, j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, dis-moi ce que tu veux que je dise dimanche. » Et vous savez, c'est jamais facile. Alors s'il y a un peu des imperfections ce matin, un peu d'indulgence, n'est-ce pas? Alors mercredi, il m'a donné une pensée. Jeudi, il m'a donné une autre pensée. Et je me suis dit, Seigneur, de toutes ces pensées, qu'est-ce qu'on va en faire? C'était un peu comme une pulse. Et je ne voyais pas trop ce que le Seigneur voulait, jusqu'où lui voulait arriver ce matin. Et cette nuit, il m'a dit, voilà le titre de ce que tu vas dire. Alors je vais vous donner le titre qu'il m'a donné. Et on peut le développer un peu, mais je vais vous donner le titre qu'il m'a donné pour ce matin. C'est « Ensemble avec nos qualités ». Et je déforme rien, parce qu'après j'ai commencé à travailler dessus, à broder dessus, ensemble avec ce que nous sommes. Non, le titre qu'il m'a donné, c'est « Ensemble avec nos qualités ». Wouh ! Merci Seigneur ! Et jusqu'à tout à l'heure même, dans la louange, je recevais une image. C'est l'image de Moïse qui rassemble le peuple juif dans le désert. Et il est dit que Moïse les rassemble autour du tabernacle, c'est ça? Et il les rassemble tous en ordre de bataille, chacun selon sa tribu. Et chacun selon son étendard, chacun selon sa bannière. Et cette image, elle m'a parlé parce que c'est vraiment dans le sens de « ensemble », avec nos qualités, avec ce que nous sommes. Et j'étais interpellé dans ma lecture cette semaine, qui m'a porté dans Josué chapitre 12 et chapitre 13. Alors je ne vais pas vous torturer ce matin, parce que chapitre 12, il faut être bien accroché pour le lire. C'est une succession, chapitre 12 de Josué, c'est une succession de noms, de territoires en Israël, les Amalécites, les Guéchuiens, et une succession de rois convaincus le peuple juif quand ils sont rentrés en terre promise. Le symbole de la terre promise, bien aimé, c'est l'héritage qui était prévu de la part de l'Éternel pour le peuple juif. Mais pour nous aujourd'hui, c'est l'Ancien Testament, mais pour nous aujourd'hui, l'héritage, la terre promise, c'est l'héritage que l'Éternel nous a promis, que le Seigneur nous a promis. Ça va, je ne crie pas trop fort. C'est bon. Ouais. que l'Éternel nous a promis, à titre personnel et à titre communautaire. Dans Josué, chapitre 12, c'est une succession de rois qui ont été vaincus par l'armée d'Israël. Et quand on lit ce passage, on se dit, mais qu'est-ce que ce passage me dit aujourd'hui? Qu'est-ce que ce passage me parle? Je ne comprends rien. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je ne veux pas faire la lecture, ça serait trop long, ça va nous endormir, on ne va rien comprendre. C'est des passages, voyez-vous, dans la parole, c'est des passages, si on ne s'assoit pas, si on ne s'assoit pas à table, si on ne médite pas dessus, si on ne va pas chercher qu'est-ce que veut dire chaque nom, on ne peut pas vraiment les saisir pour nous aujourd'hui. Vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de lecture d'un texte biblique. Et c'est une lecture un peu symbolique qu'il faut pouvoir faire de ce texte pour tirer quelque chose de pour aujourd'hui. Quand il est dit que Moïse et Josué ont vaincu 31 rois, et ils sont cités chacun par leur nom, il faut pouvoir aller chercher la racine de qu'est-ce que veut dire Og, par exemple, le roi Og. Je ne les ai même plus en tête, tellement. Et à chaque signification, ça nous parle. Et je vous laisserai faire ce travail, si vous le souhaitez, chacun chez vous. Parce que ça parle des choses qui nous dominent. Ça parle des éléments qui nous dominent aujourd'hui, dans les territoires. Les noms des territoires, ça parle aujourd'hui. Je vous laisserai faire ce travail, parce que chacun pourra y tirer quelque chose, en tirer quelque chose. Mais Josué, chapitre 13, au verset 13, dit ceci. Et là, je vais le lire, si je retrouve mes notes. Est-ce que ça va ce matin? Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on travaille ensemble ce matin? Oui, ça va. Si je reçois quelque chose de particulier pour les uns ou les autres, permettez-moi de pouvoir le libérer. En général, c'est pour la grâce, c'est pour la bénédiction, n'est-ce pas? Merci Seigneur ce matin. Josué, chapitre 13. J'ai oublié de saluer toutes les personnes qui sont sur le net. Bien, merci Seigneur pour la technique. Josué, chapitre 13. Mais, vous souvenez, 12, 31 rois, territoires ont été vaincus par l'armée d'Israël, Moïse, Josué, l'armée d'Israël. Chapitre 13. Verset 13. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point alors les Geshuriens et les Maacassiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Vous avez ça aussi dans la parole? Alors j'ai cherché ce que ça veut dire que les Geshuriens. En hébreu, ça veut dire orgueilleux. Et j'ai cherché ce que voulait dire Maacassien. En hébreu, ça veut dire ceux qui pressent, ceux qui mettent de la pression. Ceux qui pressent, ceux qui mettent de la pression. Et c'est assez étonnant que le peuple juif qui a vaincu 31 rois, 31 dominations, ils ont vaincu les géants, les Philistins. Et au milieu d'eux, ils n'ont pas pu vaincre l'orgueil, on va dire. Et ils n'ont pas pu limiter la pression et l'oppression. C'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, la thématique, c'est ensemble avec nos talents. Il y a toujours une domination, il y a toujours un ennemi qui ne voudra pas que nous soyons ensemble. Je parle pour l'église de Connect. Je parle pour l'église de la grâce. mais je parle aussi pour les autres églises. Il y en a un qui cherchera toujours à nous séparer, à nous diviser, même à l'intérieur d'une propre famille. Il y en a toujours un qui cherche la division. Il y en a toujours un qui cherche à que nos talents ne s'expriment pas. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et des fois, on va chercher des ennemis un peu loin. Des fois, on va chercher un peu des ennemis ailleurs. Des fois, on va chercher un peu des ennemis dans l'autre. Mais des fois, l'ennemi, il n'est pas si loin que ça de nous. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est pas que ce matin, je veux pointer quelque chose sur quelqu'un, non. Je dis simplement ce matin que dans notre nature humaine, on a des combats intérieurs. Je dis que parfois, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre adversaire. Et je dis ce que vous dites vous aussi, quand vous priez, quand vous chantez, je dis qu'on a besoin du Seigneur pour sortir de cette nature humaine. Paul y dira, Élie, il était de la même nature que nous. Élie, Abraham, les patriarches, ils sont de la même nature que nous. Ils ont eu leur fragilité, leur faiblesse. Donc le Seigneur, on n'a pas un Seigneur qui nous condamne et qui nous pointe du doigt, mais on a un Seigneur qui est venu devant nous pour nous sortir de ces conditions. Et les pressions, et l'orgueil et les pressions, vous savez, comment je peux dire ça? Je l'ai déjà plusieurs témoigné plusieurs fois. J'ai toujours, dans mon cœur, j'ai toujours essayé de me rapprocher avec des personnes humbles. Je ne sais pas pourquoi, bon, c'est comme ça. J'ai toujours cherché cette notion d'humilité, tout ça. Et une année, je m'étais rapproché d'une personne, un peu comme un modèle, vous voyez, parce qu'on a besoin de modèles dans la vie. On a besoin de modèles. Paul a été un modèle, il dit « soyez mes imitateurs ». Mais ce n'est pas pour imiter Paul, c'est parce que les gens ont besoin de modèles, on a besoin de modèles. Dans nos vies, on a besoin de modèles, on a besoin d'un grand frère, d'une grande sœur. Moi, j'ai eu besoin d'un père. J'ai, bien sûr, mon papa que j'ai aimé parce qu'il est décédé maintenant, beaucoup. Mais dans le domaine spirituel, j'ai eu besoin d'un papa spirituel, j'ai eu besoin de modèles. Et plusieurs personnes ont été comme des modèles, même s'ils ne le savaient pas. Et des fois, bien aimé, des fois, même sans le savoir, on est des modèles. Même, on est témoin de, on est des modèles, même sans le savoir, des fois. Waouh! Même sans le savoir. Et où j'en étais? Oh, je ne sais plus. Modèle. Oui, et donc l'humilité. Et donc cette personne que je prenais comme modèle, il était, d'une certaine forme, il était humble, puis jouait de la guitare. Puis un jour, il a préparé une sorte de petit concert. Il était plusieurs, mais j'ai vu comment il préparait son petit concert. Et vous voyez, c'était humble, c'était beau, c'était humble, tout ça. Mais quand il a eu fini le concert, j'ai vu sur son cœur une sorte de... Oh, comment dire? Une sorte de satisfaction, mais quand même, hein? Quand même! Raymond DeVos, il disait, vous savez, je ne sais pas, Raymond DeVos, ça va? Waouh, parce qu'il faut faire attention. Avec les cheveux blancs, on perd un peu des repères des fois. Raymond DeVos, ok? Voilà, c'est pas. Mais il avait des fois, il disait des trucs. Vous savez, des fois, le Seigneur, il se sert du monde pour dire des choses, hein, pour parler. Il y a le témoignage là récemment hier. On écoutait un témoignage d'un frère qui a. Bon, il a failli y passer. Hein. Mais le Seigneur lui a parlé au travers d'une chanson de Claude François. Ma foi. C'est pas que je le connaisse particulièrement, Claude François. Non, mais Raymond DeVos, il disait, c'est les chaussures. Il cirait ses chaussures Et plus il est ciré, plus il se voyait reflété, plus il s'admirait. Wow. Et vous voyez, pour résister à l'orgueil, il nous suffit simplement de les yeux, au lieu de les avoir sur nos chaussures, de les mettre sur Jésus. C'est tout! Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Tôt ou tard, on regardera nos chaussures. Ça va, vous me suivez? C'est la terre promise. Elle est pression. Vous voyez, depuis mercredi que je sais que je dois parler, surtout que la semaine a été un peu chargée, il y a une sorte de pression, mais dans notre activité, dans notre monde, il y a de la pression. Des fois même, on ne s'en rend pas compte. Hier soir, je levais la table. Vous voyez, je levais la table, je passe devant la télévision. Elle était éclairée. Je lève la table. C'est pas que je regardais la télévision, mais je lève la table. Je passe devant la télévision, c'était 19h30, quelque chose comme ça. C'était un moment de grande écoute. S'il y a bien une fenêtre, un outil, qui est un outil pédagogique de formation pour la société, c'est bien la télé. À une heure de grande écoute. Peut-être des millions et des millions et des millions de personnes qui écoutent la publicité. Je passe devant la télé, je ne sais même plus pourquoi c'était la pub. Mais c'était un rendez-vous. J'ai entendu rendez-vous, j'ai regardé, et il y avait deux hommes. À une heure de grande écoute, les enfants regardent. Quand j'ai porté les assiettes à la cuisine, je me suis dit, il faut que je prie pour nos enfants. Parce que, vous voyez, on est baigné dans cette pression. On est baigné dans cette pression. Dimanche dernier encore, je parlais de... Je dis ça pour les frères et sœurs qui ont déjà entendu. Je parlais de cette casserole où il y a de l'eau froide et on met une grenouille dedans. Vous connaissez l'histoire. Et on fait chauffer, mais la grenouille, tout doucement, l'eau, elle monte en température, mais la grenouille, elle ne s'aperçoit de rien. Et tranquillement, elle cuit. Ça va? Me suivez ce matin? Alors on a de la pression comme ça. Et la société nous impose un peu une pression. Alors, j'ai commencé, bien aimé, par les obstacles. Parce que ce n'est pas le fond du message ce matin. Vous rappelez le message, ensemble, avec nos qualités. Mais j'ai voulu commencer par les obstacles. Parce que pour entrer dans quelque chose, que ce soit pour l'église de Connect, que ce soit pour l'église de la Grâce, ou que ce soit pour toutes les autres églises, ou même pour cette image de rassemblement, on a besoin de comprendre et connaître les obstacles. Pour entrer dans notre territoire, pour entrer dans notre héritage, on a besoin de connaître les obstacles. Pour se battre comme il faut, on a besoin de connaître les obstacles. Vous me suivez ce matin? Obstacle à notre plein héritage. Le peuple hébreu, il avait déjà son héritage. Mais il n'avait pas pleinement son héritage. Et nous avons besoin de rentrer dans notre héritage plein. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui de deux communautés qui se rassemblent pour un culte commun, une invitation, un échange de chair, il y a 20 ans, ça aurait pas pu être possible. Et je parle sous le contrôle pour la plupart de nos élus, là. Ça aurait pas pu être possible. Mais aujourd'hui, c'est comme si le Seigneur, il avait ouvert une porte. Et il faut pas imaginer que c'est un homme ou une femme, peu importe, qui a ouvert quelque porte que ce soit, c'est l'Éternel qui a ouvert la porte. C'est le Seigneur qui a ouvert la porte. Bien sûr que le Seigneur, il travaille avec des hommes et avec des femmes. Il a besoin de nous, de nos paroles, de nos bouches, de nos cœurs, de nos cœurs qui s'engagent. Mais c'est l'Éternel qui ouvre les portes. Amen. Alors, merci Seigneur pour ce matin. Où j'en suis ? Nos obstacles, les qualités. Heureusement que vous suivez. Hein. Parce que moi, des fois, je me perds. Hein. J'essaie d'être... Mathieu, il m'a dit, tu sais, il faut quand même être... Il faut quand même que tout le monde comprenne. Hein. Et il a raison. Si on parle, c'est pour qu'on soit compris. Quoique, des fois, le Seigneur, vous savez... Il parlait, et les gens ne comprenaient pas. Hein. Mercredi dernier, jeudi dernier, on a eu une réunion de prière, et puis, c'était un petit groupe, là. Et puis, on a prié, enfin, prié voilà, pour la ville, pour la France, pour tout ça. Et puis, à la fin, je ne sais pas pourquoi, j'ai raconté un peu ce que le Seigneur me disait sur le cœur. Quoi. Mais c'était un peu décalé. Ça ne vous arrive pas des fois de dire des choses, c'est un peu décalé. Ça arrive, hein. C'était un peu décalé. Ce n'était pas tout à fait décalé, mais un peu quand même. Et après coup, alors, il y a eu un peu, mais pourquoi tu dis ça ? Bon, moi, bref. Mais... Après coup, j'ai relu un peu la soirée. Et en fait, dans cette soirée, il y avait une jeune fille, au milieu de beaucoup d'anciens. Elle avait quelque chose à dire sur le cœur. Et j'ai remarqué qu'elle l'a dit, elle a pu le dire, après ce petit récit qui était un peu décalé. Et là, je me suis dit, merci Seigneur, parce que c'est pas facile, hein, à 12-13 ans, devant des anciens, pouvoir parler. Et elle a pu parler. Donc des fois, on est un peu décalé, mais ça suscite des choses. Des fois, on est un peu décalé, mais ça suscite des choses. Ça va, vous me suivez ? Waouh ! Le Seigneur veut susciter des choses ce matin. Parce que quand le peuple de Dieu se rassemble, il se passe toujours quelque chose. Même si on ne le voit pas physiquement, il se passe toujours quelque chose. Toujours, 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 toujours. Toujours. Toujours quelque chose. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Alors, on a parlé de l'orgueil, on a parlé de la pression, et c'est un peu comme de la tentation, c'est un peu comme si on était pressé. Si Jacques le dit, c'est qu'à l'époque ça existait. Si l'Ancien Testament le dit, c'est qu'à l'époque ça existait. Donc je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas aujourd'hui. Et le Seigneur, il nous encourage, il nous fortifie. Et alors ça a existé par exemple, bon, on ne va pas un peu plus insister, mais ça a insisté à Babel, quand le peuple a dit « faisons-nous un nom, construisons une tour, faisons-nous un nom ». Ça a existé aussi quand Achan, il a pris le menton de Shinéar, hein, dans les conquêtes. Et ça a existé aussi avec Ananias, et ça fera dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a eu un peu de la fraude, on va dire, parce qu'ils étaient sous pression. Et aujourd'hui, ça existe aussi. Donc c'est important de le réaliser, parce que c'est important de savoir contre qui on combat, n'est-ce pas ? Alors j'ai commencé à parler du deuxième point. Premier point, obstacle à notre plein héritage. Le deuxième point, pour rentrer dans notre plein héritage, il faut bien comprendre la pensée de Dieu. Et je vais donner deux petits exemples. Il faut bien comprendre la pensée de Dieu. Deux petits exemples. Le premier exemple, vous connaissez tous le passage de la pêche miraculeuse. Vous connaissez tous ce passage-là ? Ça va ? Ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien pris. Et ils arrivent le matin, ils étaient fatigués, et le Seigneur leur dit, ben, vous n'avez rien pris, ok, mais retournez et jetez vos filets. Et un miracle s'est produit. Ils ont pêché 153 gros poissons. Et pour l'époque, ça faisait beaucoup de finances, ça faisait beaucoup d'argent. 153 gros poissons. Et un frère, un jour, alors je prêchais là-dessus, et un frère, un jour, il s'approche de moi à la fin de la prédication, il me dit, tu n'as pas vu quelque chose? Déjà, j'étais content qu'il ne m'a pas dit, tu n'as pas dit de bêtises. Mais il m'a dit, tu n'as pas vu quelque chose? Il m'a dit, 153 gros poissons, on est dans la pêche miraculeuse. On prend les poissons. C'est le filet, on prend le poisson. 153 gros poissons, c'est le nombre de grands pays déclarés à l'ONU. Waouh! Des gros pays, parce qu'il y a beaucoup plus de pays qui sont recensés aujourd'hui, peut-être le double. Vous voyez? Mais c'est intéressant de comprendre la pensée de Dieu. C'est juste un petit exemple que je donne. C'est intéressant de comprendre la pensée de Dieu. Et quand le Seigneur il nous dit « Vous êtes !» Matthieu 5, versets 13 et 14, « Vous êtes le sel de la terre. Gardez votre saveur. » Ce n'est pas écrit comme ça. Moi, je l'ai un peu traduit pour que ça soit plus compréhensible. C'est plus dur que ça, quand même, hein, ce qui est écrit. Non, vous êtes le sel de la terre, attention à ne pas perdre votre saveur. Et comment, bien-aimé, on peut perdre la saveur? Écoutez, je vous pose la question, mais je vous laisse pouvoir y répondre chacun. Comment on peut perdre la saveur? Vous êtes le sel de la terre, gardez votre saveur, parce que c'est de cette saveur que va naître quelque chose. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans... notre entourage, que ce soit sur notre milieu professionnel, c'est cette saveur. Et vous savez, la saveur, elle a besoin d'être renouvelée, entretenue et renouvelée tous les jours. Et dans la louange et l'adoration vont nous aider à entretenir cette saveur. La louange, le cœur qui se tourne vers l'Éternel, ça va nous aider à entretenir cette saveur. Matthieu 5, versets 13 et 14. Vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière doit se voir. C'est ce qui est écrit. J'ai réalisé ce texte, je l'ai réalisé, bien aimé, je l'ai réalisé cet été. Je le connaissais, bien sûr. Et intellectuellement, on comprend ce que ça veut dire. On est le sel de la terre, c'est-à-dire ce que nous sommes, notre cœur, notre... Vous voyez, si un jour je me lève grognon, comme ça m'arrive jamais, je peux le dire... Toute la journée, je vais être joyeux. Mais si je me lève grognon toute la journée, ça risque d'être un peu compliqué pour mon épouse. Mais ça n'arrive pas, rassurez-vous. Non, ce que je veux dire, c'est que ce sel, cette lumière, elle s'entretient. Je l'ai compris cet été. Je le comprenais intellectuellement. Je voyais ce que ça voulait dire. Mais cet été, j'ai compris pourquoi le Seigneur, il utilisait le sel et la lumière. On est dans Matthieu. On est dans Matthieu, alors on est sur le mont des Béatitudes. Devant, il y a la mer de Galilée. Et on est sur le mont des Béatitudes. Juste une petite montagne pour ceux qui sont allés en Israël, n'est-ce pas? Et le Seigneur, il parle à ses disciples. Merci. Merci, Jonathan. Le Seigneur, il parle à ses disciples. C'est des gens qui sont pas encore apôtres, tout ça, mais ce n'est pas des apôtres encore, mais c'est les plus proches. Ils ont entendu parler du Seigneur, ils l'ont écouté, et le Seigneur leur enseigne les lois du royaume de Dieu, le royaume de Dieu, les béatitudes. Heureux celui qui. Et il leur dit, vous êtes le sel de la terre. Mais il prend le sel et la lumière parce que le jour du Shabbat, le soir du Shabbat, dans l'entrée de Shabbat, le peuple juif prend du sel pour saler la chalot, c'est-à-dire ce que l'on mange. salé le pain. Ce que l'on mange a besoin d'avoir le goût du sel, le goût de la saveur de l'Éternel, ce que l'on mange. Mais ce que l'on mange, ce n'est pas simplement ce que l'on mange. Vous voyez, quand on prend la scène, on ne prend pas simplement la scène, on ne prend pas simplement du pain. On prend aussi la parole vivante. Ce que le Seigneur veut dire, c'est que cette parole vivante, elle n'a pas besoin d'être entachée par autre chose et perdre de sa saveur. Vous me saisissez ce matin? Et la lumière, il est dit, on ne peut pas la garder sous les boissons, mais le soir du Shabbat, justement, il y a des bougies qui sont éclairées pour cette entrée de Shabbat. Aujourd'hui, ça nous parle moins. On le voit intellectuellement, ce que ça veut dire, le sel et la lumière. Mais aujourd'hui, ça nous parle moins. Mais peut-être que je n'ai pas assez réfléchi, j'aurais dû plus réfléchir, mais peut-être que j'aurais dû donner des exemples qui nous parlent plus aujourd'hui. À l'époque, ça parlait parce que c'est ceux qui vivaient toutes les semaines. Vous me suivez ? Quand le Seigneur dit qu'il fait le lavement des pieds, vous voyez ce passage ? Quand il fait le lavement des pieds, si on le transcrit aujourd'hui, cet acte qu'il a posé, bien sûr que des fois, on a à cœur, quoi qu'on le voit un peu moins souvent maintenant, mais des fois, on a à cœur de se laver les pieds les uns les autres dans un temps, on va dire, liturgique ou cérémoniel. OK. Mais si ce moment, il fallait le retranscrire aujourd'hui, le Seigneur, il serait allé chez Pierre, par exemple, ou chez Jean, il aurait demandé de sortir la voiture, et il aurait lavé leur voiture. Je prends l'histoire de la voiture, mais ça peut être faire le ménage. C'est des choses concrètes. Parce que le message qu'il voulait faire passer, ce n'était pas tellement de laver la voiture ou de faire le ménage. C'est d'être, vous me suivez ce matin, c'est d'être serviteurs les uns les autres. Et c'est ça la pensée du Seigneur. C'est que dans nos communautés, toute pression tombe, toute pression tombe, toute notion de je ne sais pas quoi tombe, afin que nous soyons serviteurs les uns des autres. Est-ce que ça va ce matin ? Vous savez, on est dans des temps comme ça. Quand on est venu là ce matin, il y avait des personnes qui ramassaient qui nettoyaient la vitre, qui ramassaient des détritus. Et en fait, il y avait deux personnes, mais après, un peu plus après, il y avait un rassemblement, et là, c'était beaucoup de personnes qui se dispersaient dans la ville pour faire que notre ville soit propre. Il y a de plus en plus d'actions comme ça où les personnes sont touchées de faire des actions de service parce qu'il y a une sorte de... Ah, il y a les violons. Parce qu'il y a une sorte de prise de conscience générale qu'on a besoin d'être acteur. Là, c'est le bien-être, là, c'est la propreté, tout ça. Mais on a aussi besoin d'être acteur dans nos communautés. Et je sais que vous l'êtes, je sais que Connect vous l'êtes. Mais je peux vous dire encore ce matin, c'est que c'est dans la pensée de Dieu. Vous me suivez ce matin ? Ouh ! Il y a une chose du Saint-Esprit, c'est que des fois, on a tendance à intellectualiser, et peut-être moi le premier, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il agit aussi, il incarne. C'est-à-dire que, il y a l'Esprit, oui, c'est l'Esprit du Seigneur plané au-dessus et il est au-dessus de nous, il est, voilà, omni, présent, potent, puissant, potent, scient. Mais c'est l'Esprit de Dieu aussi qui nous pousse. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Ça va ? Les choses qui s'incarnent. Jean 17, verset 9. Jean 17, verset 9. « C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. » Il prie pour les apôtres. Jésus prie pour les apôtres. Jean 17, verset 9. « C'est pour eux que je ne prie pas pour le monde. Je prie pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » Le Seigneur, il priait spécialement. Il faisait cette prière spécialement pour les apôtres qui étaient autour de lui. Il a connu des milliers de personnes. Il a connu 5000 personnes, il a connu des milliers de personnes, il a été pressé de toutes parts. Il a connu, la première année c'était un peu difficile, c'était une année où il s'est fait connaître. La deuxième année c'était l'année de la gloire, il y avait énormément de personnes autour de lui. La troisième année, c'était un peu difficile ce qu'il annonçait. Des fois il se retournait et il disait, ah, ils sont partis. Et vous ? Il parlait aux apôtres. « Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous restez avec moi ? » ?»« Oui, tu as les paroles de la vie. » Et c'était difficile. Et là, il prie pour ceux qui restent à la fin, pour les apôtres. Mais regardez plus loin, Jean 17 au verset 20, pour ceux qui notent. Jean 17 au verset 20, pour ceux qui notent. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Jean 17 au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole des apôtres. » Bien-aimés, il a prié pour nous aujourd'hui. Jésus, il a prié pour nous aujourd'hui. Pour tous ceux qui sont venus à la suite des apôtres, de génération en génération. Mais il a prié pour nous aujourd'hui. Vous ne me croyez pas? Vous savez quand c'est que je l'ai réalisé, ça? Je l'ai réalisé quand j'ai fait une semaine de formation dans l'histoire de l'Église. Je me suis dit, oh là, ça va être pénible. J'étais loin de ma chère étante en plus. Ça va être doublement pénible. Eh bien non. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, mais c'était extrêmement enrichissant. C'est extrêmement riche. Vous voyez, quand on part de la Pentecôte, c'est-à-dire des récits que l'on a, et que pendant une semaine, on nous explique l'histoire de l'Église, avec les différents réveils, avec les différents mouvements, et qu'on arrive à aujourd'hui, écoutez, ce qui s'est passé dans mon cœur, dans ma personne, c'est comme s'il y avait eu un rattachement à toute la lignée de témoins qui sont depuis la Pentecôte. En plus, à cette époque-là, j'étais dans une église à Montélimar qui était vraiment, extrêmement isolée et extrêmement pointée du haut. Donc, j'avais doublement raison de me sentir un peu décalé. Mais quand je suis sorti de cette semaine-là, sur mon cœur, bien sûr qu'intellectuellement, je savais que je faisais partie de la merveilleuse famille de Dieu. On le sait, on le chante. En plus, il y avait un chant. Il y a un chant. Tout ça, on le chantait, on le proclamait, on le chantait, vous voyez. Je le savais intellectuellement, je le savais. Mais des fois, on sait les choses, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça habite là. Et vous voyez, tant que ça habite pas sur le cœur, il y a des craintes, il y a des doutes. Et quand je suis sorti de cette semaine, je sais que les sentiments, mais là, ça ne mentait pas. Je faisais partie de cette, comme vous, comme nous ce matin, nous faisons partie de cette lignée de témoins, de siècle en siècle. Ça va, vous me suivez ce matin? C'est pour ça, lui, Jésus, il a prié pour nous. Déjà, il y a 2000 ans. Ce n'est pas simplement pour eux que je prie. Mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par la parole des apôtres. Pourquoi ? Afin. Yes. J'aurais aimé que ça soit plus fort. afin que tout soit un. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Afin que aussi soit un en nous, pour que. Pourquoi ? Pour que le monde croit. Waouh ! Jésus, il a fait cette prière pour nous il y a 2000 ans. Il a fait cette prière pour nous il y a 2000 ans, que nous soyons un. Aujourd'hui, je peux affirmer ça, je peux dire ça. Mais il y a 20 ans, j'aurais pas pu le dire. Il y a 20 ans, j'aurais pas pu le dire. Je pouvais, il y a 20 ans, dire la parole. Mais personne, il y a 20 ans, se serait amusé à le dire devant une autre assemblée. Mes amis, le plan de Dieu, et c'est mon troisième point, le plan de Dieu pour nos communautés, c'est que nous soyons un. Le premier point, c'est que dans chacune de nos communautés, nous ayons nos talents, nos spécificités, et que nous soyons un. C'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que le deuxième point important, et il est important à plusieurs titres, et je ne vais pas les développer ce matin, mais je peux vous affirmer, je ne vais pas les développer ce matin, mais ce que je peux vous affirmer, c'est que nous avons besoin d'être un, d'être unis, ça veut dire. Dans l'esprit, on l'est, parce qu'il y a un corps spirituel. Dans l'esprit, on l'est. Mais sur le terrain, on a besoin d'être un. Je ne vous choque pas, j'espère. C'est le troisième point. Pour être un, nous avons besoin d'être remplis de la pensée de Dieu. On ne pourra pas faire autrement. Pour être un, il nous faut être remplis de la pensée de Dieu. Et aujourd'hui, je peux dire, et peut-être que si je suis invité ailleurs, je reprêcherai la même chose, et ce sera la première fois depuis 20 ans que je reprendrai un message. Mais aujourd'hui, ici, je peux dire qu'on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour être un. On a besoin d'attraper la pensée de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il y a 3 ans, j'avais fait cette petite étude pour la pastorale. Dans le Nouveau Testament, le mot « église » n'est pas utilisé dans l'Ancien Testament. Le mot « église », il est utilisé que dans le Nouveau Testament. Et chaque fois qu'il est utilisé, j'en ai compté 74, plutôt, c'est Bible Online qui a compté pour moi 74 fois que le mot « église » est utilisé au singulier. Chaque fois. C'est pour parler de l'église qu'il y a à la Odyssée, à Philadelphie, dans une localité. Dans une localité, le mot « église », il est utilisé qu'au singulier. Dans le Nouveau Testament, une trentaine de fois, il est utilisé au pluriel. Mais c'est par exemple quand il est dit « écrit à l'ange, aux anges » ou « écrit lettre adressée au cette église ». Donc quand il y a plusieurs églises représentées, plusieurs villes représentées, le mot « église » est marqué au pluriel. Mais le Seigneur, quand il pense à une région, quand il pense à une ville, quand il pense à une ville, une agglomération, une ville autour, c'est toujours au singulier. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, je vais un peu plus loin, dans la pensée de Dieu, à Montélimar, j'espère que je ne vous choque pas ce matin, il n'y a qu'une église. Dans la pensée de Dieu, il n'y a qu'une église. Regardez nos familles. J'ai un ami de travail, j'ai un copain de travail, c'était le 20e, c'était le dernier d'une famille de 20 enfants. Le jour où il m'a dit ça, je l'ai encore, ça fait 20 ans qu'il m'a dit ça, mais je l'ai encore là. Parce que de suite, j'ai imaginé 20 enfants, bon, déjà pour la maman. Hein. Mais bon, soi-disant, à l'époque, c'était plus courant que maintenant. C'était le 20e. on commençait notre carrière professionnelle. Donc on avait 24, 25 ans. Son frère aîné, il était à la retraite. Je ne sais pas si... Son frère aîné était déjà à la retraite. Je prends cet exemple pour dire que dans nos familles, si on est 4-5, on est 4-5 différents. Moi, avec Daniel, on a 3 enfants, ils sont différents. Je suppose que dans nos familles, c'est à peu près pareil. On est différents. Est-ce que nous n'appartenons pas à la même, au même papa, à la même maman? Est-ce que nous ne sommes pas de la même famille? Et même, on peut dire, même l'adoption. On est de la même famille. Dans la pensée de Dieu, à Montélimar, il n'y a qu'une église. Et je bénis beaucoup le Seigneur que je puisse le dire. Je bénis beaucoup le Seigneur que aujourd'hui la fenêtre de temps, elle est ouverte. Mais si la fenêtre de temps, elle est ouverte, c'est parce que le Seigneur a prié pour nous il y a 2000 ans, et qu'il a prié pour nous, non pas pour que nous soyons un peu dans une sorte de satisfaction, je ne sais pas trop comment, mais pour que nous puissions avoir un bon témoignage auprès du monde. Pour que nous puissions toucher les cœurs, pour que nous puissions nous renvoyer un bon témoignage, n'est-ce pas? Et je suis sûr que des personnes ont prié pour cette région, ont prié. Il y a quelques années, j'étais à Chypre avec, nos amis. Et le dernier jour, ils ont eu à cœur à Chypre. Ils ont eu à cœur de prier pour la France. Et il y avait beaucoup d'Américains, et beaucoup d'Allemands, d'Américains, peut-être une 60aine de jeunes, là, ils se sont tous levés, ils ont étalé par terre une carte de France, et ils ont commencé à prier pour la France. Et ça m'a beaucoup touché. Ils ont prié à un moment donné pour que le vent de l'Esprit souffle dans la vallée du Rhône. Mais que, oui, alors il souffle, hein. Oui, non, mais d'accord. Non, mais bien sûr, il souffle. Mais moi, ça m'a touché parce que ces jeunes qui ne connaissaient pas la France, ils ne connaissaient pas. Hein. Ça m'a touché. On était là, on était admiratifs de ce que le Seigneur faisait. Qu'il y a des jeunes qui prient pour nous. Que les générations passées, elles ont prié pour cette unité. Certains ont fait plus que prier. Certains se sont engagés, certains ont donné leur vie pour qu'il y ait de l'unité, de la grâce qui coule. Ça va? Vous me suivez ce matin? Et est-ce que notre soif aujourd'hui, est-ce que notre soif, c'est pas de voir cette unité se réaliser? Est-ce que notre soif, c'est de est-ce que notre soif, ce n'est pas de voir l'impact que nous pouvons avoir dans la ville ou dans la région? Est-ce que notre soif, c'est de ne pas voir des personnes touchées et des personnes venir au Seigneur? Est-ce que notre soif, ce n'est pas de voir de la restauration, de la guérison? Des fois, je fais cette prière pour moi. Augmente en moi la soif. Des fois, on dit augmente en moi la foi. Paul, il dira ça. Augmente en nous la foi. Mais la foi et la soif, c'est assez. Ça reste assez proche quand même. Quand on a la foi, on a soif. Ça va? Vous voulez boire? Jésus, il a dit à la Samaritaine, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Oui, elle lui a dit, donne-moi à boire. Des fois, il nous faut pouvoir dire, Seigneur, donne-moi à boire. Donne-moi à boire, Seigneur. Seigneur, j'ai soif de toi. On l'a chanté. On l'a proclamé, on l'a chanté, on l'a accueilli comme notre roi ce matin. à Jérusalem, quand le Seigneur est entré dans la ville, il a été accueilli comme le roi. Les gens, ils avaient soif. Les gens qui jetaient leurs vêtements, ou qui jetaient pas leurs vêtements ou des branches de palmier, ils avaient soif. Et nous avons besoin d'avoir soif. Le problème de la pression dans notre monde, où est l'heure? Waouh, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête parce que sinon on est là jusqu'à 4 heures. Non, il faut que j'arrête. Mais le problème de notre monde, c'est que ça nous enlève la soif. Vous savez, il y a des cachets qui sont coupe-faim. On le dit, ça, il y a des cachets qui sont coupe-faim. Mais la pression du monde, elle est coupe-soif. Elle nous enlève la soif. Et on a besoin de retrouver la soif. Et Seigneur, ce matin, je souhaite que je désire que le Seigneur y répande au milieu de nous plus de soif. Je sais qu'elle est là déjà, la soif. Parce que sinon, si vous n'aviez pas soif, vous ne seriez pas venu ce matin. Parce que je suis sûr qu'il y a un tas de choses à faire, n'est-ce pas? Il y a un tas de choses à faire. On n'a pas rangé la vaisselle, on n'a pas fini le linge. Il y a un tas de choses à faire. Il faut encore bricoler. Tout ça, il y a un tas de choses à faire. Je sais. Je sais. Mais c'est la soif du Seigneur. C'est la soif du Seigneur qui nous est dit ce matin. Ayons soif de l'Éternel. Ayons soif du Seigneur. Je vous invite à la prière, bien-aimés. Je vous invite à la prière.